C'est l'heure à présent d'une nouvelle édition de l'économie en question et nous parlons ce matin de la question sociale en France. Et une fois n'est pas coutume, nous partirons d'un livre, un ouvrage collectif fort bienvenu à 2 mois de l'élection présidentielle. Évidemment, ça ne doit pas être un hasard. Ce travail passe en revue les grands thèmes qui font notre vie de tous les jours et propose des pistes de réforme intéressantes. On va le voir avec un objectif clair, remettre au premier plan le droit au bonheur, le bien-être, le mieux vivre, lesquels, du point de vue des auteurs, semblent bien trop négligés ces derniers temps dans notre société, contribuant à son malaise et à ses doutes. Nous avons choisi 3 des thèmes abordés par ce livre et nous les mettons en débat avec nos invités. Le travail, le logement, la santé, priorité à la question sociale, c'est notre sujet ce matin. Et nous sommes heureux d'accueillir Philippe Askenazy, directeur de recherche au CNRS, qui a dirigé cet ouvrage avec Daniel Cohen et Claudia Sénic. Cet ouvrage dans le titre, je le donne quand même, repenser le modèle social, 8 nouvelles questions d'économie. On verra effectivement en quoi elles sont nouvelles pour vous, Philippe Askenazy. Face à vous, Florence Jusseau, professeure de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, l'excellent laboratoire d'économie et de gestion des organisations de santé. Bonjour. Mais elle fera également le lien certainement entre la santé, le travail et la santé et le logement, notre 3e thème donc, avec Pierre Madec, qui n'est pas encore dans le studio, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, je l'espère, économiste au département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et par ailleurs, nous réservons une courte séquence en fin d'émission pour chacun d'entre vous. Je vous ai demandé de venir avec un chiffre, nous verrons lequel. C'est bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Pierre Madec fait son entrée et bonjour à tous. Oui, Philippe Askenazy, avec Daniel Cohen, Claudia Sénic, donc vous avez dirigé ce travail, repenser le modèle social. Et j'avais vraiment envie de partir de lui parce que ça me semble assez nouveau, vous le dites aussi dans le titre, hein, de prendre les choses de cette manière. 3 grandes parties, mieux travailler, mieux vivre et mieux s'organiser.
Oui, tout à fait. Alors, cet ouvrage est un ouvrage collectif d'une bonne vingtaine de chercheurs qui gravitent autour du CEPREMAP à Paris. Et
CEPREMAP, c'est le centre de recherche, c'est normal sup. Hein
tout à fait. C'est disons, un consortium d'organisations pour justement travailler en quelque sorte en réseau sur des grandes questions économique, mais aussi social, et c'est l'objectif. Donc effectivement, l'ouvrage n'est pas sorti par hasard, hein. Il avait été prévu pour nourrir la réflexion pendant la présidentielle, pas nécessairement nourrir des propositions programmatiques, mais pour mettre en avant des sujets qui touchent à la vie du quotidien et qui sont donc des grandes questions pour chacun d'entre nous. Vous avez déjà cité donc accéder au travail, les problématiques de santé, les problématiques de logement qui sont systématiquement celles que les Français eux-mêmes mettent en avant comme leurs principales préoccupations et sur lesquelles les chercheurs ont des résultats qui peuvent éclairer la décision publique et des résultats surtout qui mettent en avant des angles qui sont souvent hors du champ du débat public qui souvent se concentre soit sur des idées de grandes réformes paramétriques de l'existant ou qui partent sur l'idée de changer globalement le modèle. Là, on revient à des éléments de base, des éléments diagnostiques sur les difficultés, les opportunités, notamment en France.
Un thème classique, évidemment, on le retrouve quand même dans l'ouvrage aussi, hein, comme l'avenir de l'État-providence ou des thèmes liés au travail, comme les inégalités professionnelles, hommes-femmes, la discrimination à l'embauche, à laquelle vous accordez une large place, mais aussi, et c'est vraiment actuellement d'actualité, l'alimentation, par exemple, la lutte contre l'obésité, ou pour les familles, le moment du choix pour la naissance d'un premier enfant, un enfant qui, comme on le sait, arrive de plus en plus tard pour des raisons que les économistes se pose.
Oui, alors si on reprend, enfin en quelque sorte, on va reprendre tous ces sujets, mais on voit bien que sur chacun d'entre eux, ils mettent à nouveau en lumière sur des mécanismes sur lesquels on réfléchit peu en termes de politique publique. Donc sur la problématique des discriminations, on est souvent sur l'idée que une partie de ces discriminations serait en fait le fait des personnes elles-mêmes discriminées qui auraient pas nécessairement les bons comportements, ou bien on en viendrait simplement à ben voilà, c'est du racisme, il y a rien à faire, on sait pas comment gérer cette problématique. Le chapitre de l'ouvrage qui porte sur cette question-là, eh bien, il met en avant le fait que c'est pas tant un problème de racisme ou autre, mais plutôt de peur de celui qui est différent. Donc il y a du testing qui est non pas sur quelqu'un qu'on identifierait comme maghrébin ou noir ou autre, mais qu'on n'est pas capable d'identifier. Donc c'est l'altérité. Et il y a donc une mise en évidence que c'est bien plus difficile d'accéder à un emploi lorsque on est vu comme différent, mais plutôt inconnu. Et donc, ça renvoie à d'autres, non pas à dire ben, on peut rien faire, mais plutôt à s'interroger sur comment faire en sorte que l'ensemble du monde du travail ait moins peur de l'inconnu. Et on sait très bien que
voilà,
l'inconnu, c'est aussi l'enrichissement de tous. Et donc, par derrière, il y a une problématique à la fois d'emploi, mais aussi potentiellement de croissance économique, d'innovation pour l'économie française. Si on va sur la question de la santé, de l'obésité, eh bien, il y a aussi un chapitre qui insiste beaucoup sur remettre le consommateur au centre de la réflexion, alors que bah, typiquement en France, on a d'un côté, bah, on est aujourd'hui, il y a toujours le salon de l'agriculture, d'un côté, entre une opposition disons hygiéniste qui est portée par le ministère de la Santé, et puis d'un autre côté, le ministère de l'Agriculture qui porte plutôt des filières, et on n'arrive pas à travers cette polarité à véritablement construire une politique de santé publique autour de l'alimentation.
Vous proposez bien sûr des réponses pour la discrimination à l'embauche que vous jugez avérée, hein, on ne revient plus là-dessus, et dangereuse, je vous cite. Il y a des pistes possibles, on en connaît certaines, hein, l'anonymat des candidatures, l'information, vous venez d'en parler, et par exemple la formation des recruteurs, y compris ceux de Pôle emploi, qui s'auto-censurent d'eux-mêmes avant de proposer ces candidatures-là. Donc vous le faites fortement remarquer. Florence Uzeau, pour la santé dont vient de parler à l'instant Philippe Askenazy, le lien pourrait être fait assez facilement. J'ai dit, on parle d'obésité, on parle de conditions de vie. Disons les choses clairement, la prévention en santé, par exemple, dans le travail, est bien plus importante pour sauver des vies que de prévenir contre le tabac.
Voilà, alors effectivement...
C'est brutalement dit, mais il faut le savoir.
C'est ça. Donc effectivement, si on s'intéresse au bien-être et à la santé de la population, effectivement, l'obésité est un problème. Hein. On a 16% de la population qui est obèse en France. Alors on a une situation un peu favorable par rapport aux autres pays européens, il faut le rappeler, alors qu'il y a des sujets sur lesquels on est à des situations peut-être plus défavorables.
C'est récent chez nous.
Ouais. Donc c'est une vraie préoccupation chez les enfants, donc il faut le prévenir dès le plus jeune âge, et c'est pour ça que des interventions en cantine scolaire, en milieu scolaire sont une bonne idée. Mais c'est vrai que le résultat de cette prévalence, quoi, de l'obésité, est lié bien sûr à une absence de contrôle des filières et aux relations que l'on a avec l'industrie alimentaire, mais aussi au fait qu'on a un système de santé qui est extrêmement curatif, hein, donc qui est tourné sur le soin des maladies qui sont déjà là, et plus encore un système qui se tourne vers le monde hospitalier, hein, donc on a un système de soins de ville qui est un petit peu limité par rapport à ce que l'on voit dans d'autres pays. Plus de 50% de nos dépenses de santé qui sont des dépenses hospitalières, à titre d'exemple, qui concernent 14% de la population, alors que le reste concerne 95%. Et donc, du coup, ben, c'est vrai qu'on a un peu du mal à prévenir. Et donc, la prévention d'obésité, elle se passe dans le milieu de vie, mais elle se passe aussi au cabinet du généraliste. Alors, la prévention, elle se fait, comme vous l'avez dit, aussi dans le travail. Et effectivement, la prévention dans les milieux professionnels est extrêmement importante pour éviter les
maladies insuffisantes
pour éviter les maladies professionnelles, mais aussi pour éviter, et là on en revient sur votre première partie, hein, les ruptures des carrières professionnelles pour raison de santé. Parce qu'on a un système aussi qui est très, j'allais dire, par partie. Et donc, le sanitaire s'occupe du sanitaire, le monde du travail s'occupe des problématiques de travail, le social s'occupe du social, et on a peu d'interactions entre nos systèmes. Et donc, eh bien, on a encore du mal à penser, par exemple, le retour au travail de personnes après la maladie, qui restent fragiles, mais qui pourraient tout à fait travailler avec des postes davantage aménagés.
Troisième volet, le logement. On a parlé du travail, de la santé. On voit bien les passerelles entre les uns et les autres. Pierre Madec, dont c'est un des sujets de prédilection à l'OFCE. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, notamment sur les aides au logement.
Oui, alors il y a une partie dans le livre qui est consacrée justement à qu'est-ce qu'on fait avec les aides au logement. C'est un thème qui est développé notamment par l'équipe d'Antoine Bozio à l'IPP. Je trouve ce chapitre intéressant. Bon, on a eu l'occasion de discuter avec Antoine Bozio sur le sujet. En fait, si je veux caricaturer un tout petit peu, c'est la proposition de François Fillon à la présidentielle. C'est normalement...
Sur le vent.
Voilà, à peu près. Si Antoine Bozio m'écoute, il sera pas content du tout, mais...
Rappelez-la, résumez-la.
L'idée, c'est de dire, en fait, les aides personnelles au logement ne fonctionnent plus. Elles devaient être progressives avec le loyer, elles sont devenues forfaitaires. Donc du coup, moi je considère ça un petit peu comme un aveu d'échec, mais on dit, bon bah du coup on acte le fait qu'elles sont forfaitaires, on la fusionne avec les minima sociaux et puis on fait une aide un peu globale pour les ménages modestes. Je caricature un petit peu sur, c'est le programme de François Fillon, mais on n'en est pas très loin, parce que François Fillon propose une allocation sociale unique, fusionnant à la fois les aides au logement et les minima sociaux. Donc on voit qu'on n'est pas sur le paramétrique, on est un petit peu, il y a quelques différences, mais sinon sur la forme en tout cas est là. Moi je trouve cette proposition...
Excusez-moi de vous interrompre Pierre Madec, on peut quand même rappeler que l'aide personnalisée au logement notamment est captée, et ça c'est un constat que vous avez fait les uns et les autres, très largement captée par les bailleurs, par exemple,
je mettrai cette affirmation au passé. Les papiers qui ont travaillé sur le sujet ont montré qu'en effet, il y a eu des phénomènes de captation dans des circonstances bien spécifiques au moment où des populations telles que les étudiants, par exemple, sont rentrées dans le système d'aide personnelle. Là, actuellement, on a un système d'encadrement des loyers qui est en vigueur dans 28 agglomérations en France, qui empêche, en cas de forte revalorisation des APL, tout phénomène de captation de la part des bailleurs. Donc, en fait, on est protégé de ça.
Il y a eu des avancées,
oui, et il faut voir que sur le constat qui est que les aides personnelles sont devenues forfaitaires et donc en gros ne prennent plus en compte le loyer, c'est certes vrai, mais c'est dû au fait qu'elles n'ont pas été assez revalorisées, que les plafonds qui servent à calculer les aides n'ont pas été assez revalorisés, et donc dire... Bah, de fait, c'est forfaitaire, donc du coup, on acte le fait que c'est forfaitaire, et puis du coup, on transforme ça en aide aux ménages modestes. Je trouve ça un petit peu dommage, mais je pense que...
Philippe Askenazy, vous souhaitez répondre sur ce point
À nouveau,
moi, je voulais insister sur un autre point après, mais excusez-moi, qui reviendra sur plus et qui refera le lien avec la santé, sur la qualité du logement, mais on va y revenir.
Oui, alors à nouveau, c'est un ouvrage collectif où dans chaque chapitre, les auteurs essayent d'avancer des propositions qui sont les leurs. Hein. Il y a des débats entre nous. Je pense que déjà sur cette problématique APL,
aide personnalisée au logement,
c'est difficile de nier que il y a, comme tout type d'aide, un partage de ce qu'on pourrait qualifier d'une rente entre les deux acteurs, qui sont d'un côté le bailleur et puis de l'autre côté le locataire. Après, on peut avoir des discussions sur quelle est l'ampleur de ce qui revient à l'un ou à l'autre. Il se trouve que, quand même, ce sur quoi insiste Chabis, c'est qu'aujourd'hui, ces aides personnalisées au logement constituent l'essentiel de l'effort de l'État en faveur du logement. Donc on peut faire différents types de choix.
Le reste étant des aides à la construction, à la rénovation.
Voilà, c'est moitié-moitié.
C'est moitié-moitié, oui, d'accord. Tout à fait.
Des avantages fiscaux.
Il y a trois parties, une grosse moitié qui sont les APL, ensuite un gros tiers qui sont les différents avantages fiscaux pour les bailleurs privés, et puis enfin ce qui est une action directe de financement du logement social. Voilà, c'est en gros les donc là on a un gros bloc, et ce gros bloc effectivement il est aujourd'hui en partie une aide, puis d'un autre côté, donc un outil qui va plutôt vers les bailleurs. Comment le réorienter ? L'idée qu'il y avait derrière ce chapitre, c'est pas tant une idée. Alors peut-être que François Fillon, effectivement, c'est ce type d'élément, mais le raisonnement qu'avaient les auteurs, c'est que en le fusionnant, c'était quelque chose qui devenait en quelque sorte invisible pour le bailleur. Il faut voir qu'aujourd'hui, vous avez certaines APL qui sont directement versées au bailleur. Ça passe même pas au locataire. Donc à ce moment-là, vous voyez bien, il voit bien la somme qui arrive. Donc là, c'était pour le rendre en partie invisible. On peut discuter si ce mécanisme marcherait ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est une forme de piste. On peut avoir d'autres types de volonté de réorienter les sommes. Elles pourraient aller, augmentons par exemple l'effort de l'État sur le logement social et diminuons l'effort des APL, peut-être en ciblant sur certains types de publics et en laissant d'autres.
C'est le deuxième point que je voulais aborder un peu rapidement, bien sûr, avec Pierre Madec, notamment en me référant au rapport Emmaüs 2017, qui est paru il y a très peu de temps, et quelques chiffres quand même assez effrayants. Plus de 40% des Français subiraient un effort financier excessif pour payer leur logement. Le nombre d'impayés reste stable, c'est à noter. Et les Français sont là aussi plus de 40%, 44% je crois, de plus qu'en 2006 à se priver de chauffage à cause de son coût. On va faire le lien avec la santé tout de suite grâce à Florence Jusseau. Pierre Madec, ça reste un des point très fort, et je trouve que là on retouche au mieux vivre, au bien-être qui n'est évidemment pas respecté dans ces conditions de mal logement.
On en revient, on
n'arrive pas. Dans un grand pays comme la France.
On n'arrive pas à sortir de cette problématique de solvabilisation des ménages modestes. Mais typiquement dans ce cas-là, ces chiffres sont relativement inquiétants parce que ce qu'ils nous disent, c'est que les Français dépensent encore trop en logement et en charges pour le logement. Il faut voir que le pouvoir solvabilisateur des APL est très important. En effet, il y a potentiellement un phénomène de captation par les bailleurs, mais à force de vouloir rendre invisible l'aide, en fait, on la supprime. C'est-à-dire qu'on dit...
Il y a ce danger.
On parle de fusion, mais en fait, c'est plus une fusion, vu qu'il n'y a plus de prise en compte du loyer, il n'y a plus de prise en compte des charges. Donc, OK, si on prend en compte le loyer ou les charges, on dit que ça a un effet inflationniste, parce que du coup, le bailleur a intérêt à augmenter son loyer, parce que les aides vont augmenter. Mais est-ce que la solution, c'est du coup de plus prendre du tout en compte le loyer, le taux d'effort, les charges ? Ça passe pas forcément par là, vu qu'on voit une fois de plus que les chiffres sont plutôt alarmants sur les ménages modestes qui dépensent de plus en plus en logement. Donc il faut prendre ça en compte et essayer de solvabiliser au mieux ces ménages-là qui ont une charge excessive.
Là encore quand même des progrès qui ont été faits. Vous le notez aussi, Pierre Madec, dans d'autres écrits, mais je voudrais faire le lien sur cette précarité énergétique avec la santé, Florence Jusseau. Là on est bien dans...
Oui, alors effectivement les conditions de vie et la pauvreté en général sont des facteurs beaucoup, beaucoup plus important que l'obésité ou le tabac sur la santé. C'est vraiment incommensurable. Et donc, effectivement, on sait très bien que la précarité énergétique, alors c'est-à-dire le fait de se priver de chauffage ou le fait d'avoir un taux d'effort pour se chauffer, il y a des gens qui arrivent à faire les deux, c'est-à-dire avoir un taux d'effort élevé pour une température au final insuffisante dans leur logement, ont des conséquences terribles sur la santé, sur beaucoup de maladies pulmonaires, par exemple, et cardiovasculaires. Et qui sont génératrices d'augmentation aussi de dépenses de santé ultérieures. Alors à ce titre-là, il y a une initiative qui est intéressante, ce sont les tarifs sociaux de DFGDF par exemple, qui ont été mis aux bénéficiaires de la CMU, la complémentaire maladie universelle complémentaire et de l'aide complémentaire santé. Et pour en revenir sur les débats que vous aviez, alors ce sont des aides qui sont marquées par des taux de non-recours, surtout pour la CS, extrêmement importante. 66% des gens éligibles à la CS, qui est une subvention pour s'acheter un contrat de mutuel, n'y ont pas recours.
Même problème qu'avec le RSA.
Même problème qu'avec le RSA activité et même pour la CMU.
APL ont un taux de non-recours très faible.
Voilà. Et même la CMU, c'est 20%.
Ce qui veut bien dire, mais peut-être je ne devrais pas le dire, mais que elles ont été bien comprises, peut-être pas forcément par ceux à qui elles sont
C'est quand même les ménages qui les demandent.
Les parents d'étudiants et autres qui connaissent bien le système, peut-être mieux.
Mais sur une frange marginale. Mais continuons sur la santé.
Voilà. Et donc, initialement, EDF voulait donner ces tarifs sociaux aux personnes recourantes. Et ce qu'ils ont mis en place, c'est le fait de donner, grâce aux déclarations fiscales et aux revenus déclarés dans les CAF, aux éligibles. Et ça, c'est quelque chose qui est proposé dans certains programmes aussi, de rendre le droit automatique pour certaines personnes. Et je pense que c'est aussi une avancée, indépendamment de la fusion des aides sociales, mais d'automatiser le fait que les personnes bénéficient de leurs droits. Parce qu'à chaque fois qu'on cherche de la fraude, on trouve surtout beaucoup de non-recours et très peu de fraude.
Le modèle social... C'est bien de le rappeler, dit Pierre Madec. Le modèle social très, très questionné, hein, le bon niveau de prise en charge, je sais que c'est un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup avec l'assurance aussi maladie. Florence Jusseau, le bon niveau de la prise en charge, je fais référence là à une actualité, la manifestation des dentistes cette semaine, et le programme, puisque vous avez parlé de François Fillon, deux mots sur Emmanuel Macron, qui ne veut pas modifier les prestations familiales, les retraites, qui annonce un système plus juste, on ne va pas le détailler, mais Florence Jusseau.
Oui, alors, d'ailleurs, le livre aborde cette question de savoir est-ce qu'il faut un modèle, par exemple, système de protection sociale plus généreux, ou est-ce que la question est de faire mieux avec autant, voire même de faire mieux avec un peu moins. J'allais dire la question du niveau, quoi. Nous, dans notre sujet, ce qu'on voit transparaître dans tous les programmes, hein, c'est la question, est-ce que la sécurité sociale doit toujours rembourser 100% du frais des soins, ou rester à 76% son niveau actuel?
Bon. Ce que réclament certains candidats, hein.
Tout à fait.
Hamon
propose de rester à 76%.
76%, pardon.
Voilà.
Pardon.
Fillon est passé du gros risque à 100%. et Macron propose de 100%. Bon. Alors 100%, mais 100%
Mélenchon,
de quoi?
Mélenchon, allez jusqu'au bout?
Mélenchon également, 100%. Alors 100% de quoi?
Parce que le Front National, excusez-moi.
Alors on n'a pas donné de chiffres.
On n'a pas les chiffres. Parfait.
Alors 100%, eh bien écoutez, 100% de quoi? On se doute bien que ça ne sera pas des dépenses extrêmement onéreuses comme les prothèses dentaires ou les lunettes très très, très chères, donc ça ne sera jamais 100%. Après, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on a un panier de soins public, mais plus généreux, ou est-ce qu'on laisse un espace pour les complémentaires? Alors, les soins dentaires, hein, c'est un sujet intéressant parce que c'est un type de soins qui, depuis très très longtemps, est mal pris en charge par la sécurité sociale. Donc, les tarifs de la sécurité sociale sont totalement déconnectés des tarifs pratiqués. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est remboursé par les complémentaires. Si on devait faire augmenter la prise en charge par la sécurité sociale de ces soins, il faudrait se mettre d'accord sur des tarifs. Or, après 30 ans de non-revalorisation, vous imaginez bien qu'il est très difficile de proposer un prix correct. Et c'est la raison pour laquelle nous avions les dentistes hier dans la rue, parce que l'état des négociations est très faible. Donc on pense que sur ces soins, ça restera quand même en partie prise en charge par les complémentaires.
Ouais. On touche là, Philippe Askenazy, pour conclure sur ces trois points, en tout cas, que nous avons isolés aujourd'hui, vraiment à l'objectif même de votre travail collectif.
Oui, donc
pointer ce qui fait la vie des gens, tout simplement.
Voilà, oui, tout à fait. Et puis aussi briser certains tabous. Donc un des chapitres qui est fait par des économistes belges et qui loue finalement l'État providence français. C'est toujours intéressant de voir que des étrangers peuvent avoir un regard qui est finalement pas celui qui a tendance à se diffuser en France. C'est vraiment de prendre conscience à la fois des difficultés et de ce qui fonctionne quand même dans le système français, et de sortir de raisonnements trop simplistes. On parlait là de la santé. Il y a une vision aujourd'hui qui est que nécessairement les dépenses de santé sont des coûts. Et que, donc, puisqu'on parle de coûts, il faut absolument les réduire. Il faut revenir à des éléments de base qui sont qu'est-ce que l'on veut comme politique de santé, qu'est-ce qu'on veut pour la santé des Français, et à ce moment-là, construire une politique, quitte à ce qu'elle soit plus coûteuse, quitte à ce qu'elle soit prise entièrement en charge par l'État, mais qui corresponde aux besoins. Et donc là, c'est voilà, les besoins de santé, les besoins de logement, les besoins de travail, revenir à cela.
Et leurs bénéfices. Et leurs bénéfices économiques, car bien entendu, on travaille mieux dans ces conditions-là.
Et puis prendre conscience que tout cela est vraiment interrelié et qu'on ne peut pas faire un bout de politique d'un côté, un bout de l'autre. C'est à vous construire un État et un État-providence dans sa globalité.
Dernier mot, Pierre Madec, là-dessus.
Il faut juste rappeler que les transferts en nature, ce qu'on appelle transferts en nature, donc c'est-à-dire l'éducation, la santé, contribuent plus à la réduction des inégalités en France que les transferts monétaires. Donc c'est important de dire que on parle souvent des dépenses, il faut réduire les dépenses, etc., etc. Mais il faut quand même rappeler ce que sont les dépenses. La grande majorité, 75%, c'est les dépenses de santé et de retraite dans notre système de protection sociale. Et il faut rappeler une fois de plus que les transferts en nature participent plus à la réduction des inégalités que la redistribution monétaire, c'est-à-dire les impôts et les prestations.
Oui, donc ça vaut pour le logement comme pour les autres chapitres. Et juste sur la santé, un dernier mot, Florence Jusseau, c'est vous qui me l'avez appris, mais la prévention prévention, évidemment, on n'en fait pas assez, vous l'avez bien dit. Il est certain qu'elle améliorerait la santé, pas forcément la santé du budget.
Non, il n'est pas certain que faire davantage de prévention réduise énormément les dépenses de santé. Les dépenses de santé sont extraordinairement concentrées au moment du décès. Or, tout le monde est amené un jour à décéder. Et la prévention...
Sur la dernière année, hein, beaucoup.
Voilà, sur la dernière année, hein, 50% des dépenses de santé vie entière sont dans les 6 derniers mois de la vie. Et la prévention nous permet de vivre plus longtemps, mais aussi avec des maladies chroniques qui sont quand même aussi coûteuses. Donc, mais je pense que ces années de vie, hein, ces années de vie en bonne santé, ont une valeur. Et si nous avons des dépenses de santé importantes, c'est bien que nous sommes disposés, en tant qu'économistes, à payer pour cela. Et donc, que les personnes, pour elles, c'est une source de bien-être.
Et je rappelle Daniel Cohen, Philippe Askenazy et Claudia Seni, qui, parmi les premières en France, en tout cas, a mis en avant la notion d'économie du bonheur, hein, qui est vraiment sous-tend tout ce travail. Merci à tous les trois pour vos analyses. Et on va vous demander quels chiffres vous avez apportés. Par qui commence-t-on, Pierre Madec?
Alors le chiffre c'est 5. L'INSEE a sorti cette semaine tout un dossier sur la transmission des inégalités. Et on apprend dans ce dossier que contrôlé d'un certain nombre de facteurs que sont l'âge, le lieu de résidence, le type de famille, une personne dont le père est diplômé a 5 fois plus de chances d'être diplômé qu'une personne dont le père n'est pas diplômé. 3 pas... pour la mère, 5 pour le père.
3 pour la mère, 5 pour le père.
Voilà, on a encore un petit peu de travail sur la non-transmission des inégalités intergénérationnelles.
En effet, on a peu insisté d'ailleurs sur les inégalités hommes-femmes dans notre précédente partie, mais ça compte beaucoup. Philippe Askenazy, votre chiffre. Merci.
Oui, alors je traverse l'Atlantique. Donc, on vient d'avoir les chiffres de l'augmentation de la productivité du travail aux États-Unis pour l'année 2016. C'est 0,3%, ce qui est extrêmement faible historiquement et qui quand même interroge au moment où on dit qu'on va vers la fin du travail parce que des machines vont remplacer les hommes et on aura des gains de productivité monumentaux. On est plutôt aujourd'hui sur une tendance où même dans cette économie la plus avancée technologiquement, on est à zéro. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que le progrès technologique aujourd'hui?
Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre réponse en deux mots?
Non, je...
Vous vous interrogez.
Justement, voilà, oui, comme beaucoup, on s'interroge sur notre devenir. En tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle en termes de croissance potentielle, en quelque sorte.
Tout à fait. Merci, Philippe Askenazy. Enfin, Florence Jusot, quel chiffre avez-vous apporté?
41. Mon chiffre est 41. Et donc, pour faire le lien avec la question que vous m'avez posée précédemment, 41% de la population qui ne dispose pas de complémentaire santé a dû renoncer à des soins dentaires au cours des 12 derniers mois. Et donc, on voit l'urgence de la question, sachant qu'en population générale, c'est tout de même 18%. Donc, un cinquième de la population qui a reporté ou carrément abandonné l'idée de faire un soin dentaire.
Sujet très important, le complémentaire santé. On n'a pas eu le temps de le signaler suffisamment. 95% des Français sont couverts, mais pas tous de la même manière. Ça reste à débattre. Merci encore à tous les trois. Donc, Florence Jusot, que l'on vient d'entendre, laboratoire d'économie et gestion des politiques de santé. C'est à Paris Dauphine. Pierre Madec, je conseille de se reporter à son blog et aux notes de l'OFCE. Il y en a de nombreuses fort intéressantes sur notamment les questions de logement, une de ses spécialités. Et enfin, le livre qui nous a servi d'outil de réflexion ce matin sous la direction de Philippe Askenazy qui est venu nous trouver. Daniel Cohen, Claudia Sénic, c'est paru aux Économiques numéro 4 chez Albin Michel. Repenser le modèle social, 8 nouvelles questions d'économie. Et ne manquez pas de venir nous retrouver sur notre site, bien sûr. Merci à Laurent Genepin, Laetitia Coya qui réalise l'émission avec Jean-Frédéric. Sur Twitter aussi, on attend vos réactions et nous en mettons quelques-unes nous aussi. À suivre les informations